Paddock RMC, Nicolas Paolorsi.
Salut les amis, la F1 retourne en Asie à Singapour, 18e manche de ce championnat du monde. C'est l'heure du warm-up, on va se plonger dans ce week-end de Formule 1. C'est un warm-up exceptionnel, différent des autres. Je vais vous dire pourquoi dans quelques secondes. Mais avant de présenter notre invité exceptionnel, on va accueillir les ingénieurs. Et cette fois, les ingénieurs, attention, ils ont de la concu. Je dis ça, je dis rien. Arnaud Valadon et Louis Gerbier sont là. Salut les amis.
Salut Nico, salut à tous.
Salut tout le monde.
J'espère que là, vous êtes prêts à assumer votre statut d'ingénieur, les gars.
Bah, on est là depuis quelques minutes et en off, il y a une discussion sur l'IA. au bout de deux phrases, il y avait des papillons dans mon cerveau. J'étais là, ok, allez hop.
Toi, hormis Pythagore, tu t'es arrêté à Pythagore et Thalès, quoi.
Non, même pas Thalès. Pythagore, je l'avais, Thalès, il m'a toujours embêté, tu vois, pour te donner un peu le niveau.
Ah ouais, il y a 2-3 neurones qui ont sauté, là, j'ai vu lors de la discussion.
Erreur 404.
Les gars, pourquoi c'est un warm-up exceptionnel aujourd'hui? Parce qu'on accueille un futur acteur du championnat du monde de Formule 1. Lui, c'est un vrai ingénieur. Il va nous expliquer ce qu'il va faire la saison prochaine. Il déménage dans quelques jours à Silverstone en Angleterre parce qu'il va collaborer avec l'écurie Cadillac. Vous savez que Cadillac s'engage en Formule 1 en 2026. Et on accueille avec nous, dans le paddock RMC, Tristan Villéger. Salut Tristan.
Ben salut et bonjour et merci du coup pour cette invitation. C'est un plaisir d'être là.
Merci à toi. Tu vas nous expliquer.
Enfin, quelqu'un qui a fait des études dans ce podcast.
Ouais, voilà, c'est ce que j'allais dire. T'es de loin le mec le plus compétent autour de la table. Hein, je vais pas te mentir. Donc, on va bien évidemment parler de ce Grand Prix de Singapour, parler de cette saison. Tristan, tu vas nous expliquer un petit peu toutes les subtilités techniques aussi de cette fin de saison. Et puis, on va se plonger sur 2026 avec toi et sur tout ce que tu vas faire chez Cadillac. Donc, ça va être passionnant ce warm-up. Je vous rappelle que vous pouvez nous noter toujours sur les plateformes de téléchargement, que c'est super important pour le podcast, qu'on est toujours dispo et que voilà, tous les épisodes sont encore dispo sur les plateformes. Les gars, c'est parti, on se plonge dans ce Grand Prix de Singapour. Je vous donne le programme du Grand Prix de Singapour. Ça commencera ce vendredi à 11h30, la première séance d'essais libres, et puis la deuxième à 15h le samedi, les essais libres 3 à 11h30. Les qualifs à partir de 15h avec Jean-Luc sur RMC, et la course à partir de 15h également avec Jean-Luc. Voilà pour le programme du Grand Prix de Singapour. Tristan, avant de se plonger avec toi sur Cadillac, sur tout ce que tu vas faire, on va rester un petit peu dans l'actu chaude. L'enjeu de ce week-end, les gars, Arnaud, c'est que McLaren peut être champion du monde constructeur. C'était déjà le cas il y a 15 jours à Bakou. Il n'y a que 13 petits points à prendre, mais on se demande si McLaren va le faire. Enfin, ils vont le faire, oui, ils vont le faire. On se demande quand ils vont le faire et on se demande surtout si Red Bull et Max Verstappen peuvent rester sur leur lancée de Bakou et des deux dernières courses.
La question, c'est comment McLaren va rebondir. Est-ce qu'ils vont rebondir comme une écurie de champions, ou est-ce que la petite musique du doute va commencer à résonner dans les têtes de tout le monde? C'est-à-dire que on a déjà vu qu'on a un peu la main qui tremble au moment des pit-stops, hein, notamment quand c'est Lando Norris qui s'arrête. Est-ce que Verstappen et Red Bull qui arrivent totalement revigorés, l'effet Laurent Mekies, Tsunoda qui prend les points, où on sent une espèce de nouvelle dynamique chez Red Bull, est-ce que ça va marcher sur un circuit en lance des conditions? Évidemment, il fait toujours très chaud à Singapour. Évidemment, il fait humide, mais bon, il y aura peut-être aussi une piste un petit peu trempée. Moi, j'ai envie de voir quelle sera la réaction de McLaren. Est-ce que c'est vraiment l'équipe de champions avec deux pilotes qui seront encore très probablement un des deux sacrés champions du monde des pilotes? Sur le côté constructeur, ça fait plus de doute tellement il y a d'écart. Mais c'est vraiment cet aspect-là. Comment McLaren va réagir? Parce que une ligne de crête, c'est peut-être un petit peu exagéré, mais est-ce qu'on n'est pas un début de moment de bascule d'un énorme comeback?
Louis, surtout que Singapour, c'est un circuit référence pour Red Bull, parce que c'est un circuit urbain, c'est un circuit il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup d'appui. C'est pas forcément des caractéristiques qui conviennent à Red Bull depuis le début de saison. Hein.
Oui, mais bon, ils ont un ovni, quoi. Donc, en fait, à partir de là, est-ce qu'il faut rester, dans le rationnel avec lui? Parce qu'il est quand même en train de nous montrer des choses en ce moment. Donc, j'ai quand même un peu envie de rêver, donc je me dis pourquoi pas qu'il les embête encore un peu plus, parce que pour le coup, c'est quand même un endroit où il est complètement capable de le faire. C'est un des endroits peut-être où le pilotage est le plus important, et donc Dieu sait que le pilotage, lui, il n'a pas trop à apprendre des autres. Donc, moi, si tu veux, il y a deux semaines, j'aurais dit, mais jamais de la vie. Autant là, j'ai envie d'y croire. Je ne te dis pas que je suis persuadé que ça va se produire, parce que quand même, il y a beaucoup d'avance. Hein. Mais Verstappen est tellement surprenant que sur un circuit, comme tu l'as dit, plutôt propice, moi, je le vois bien. Je le vois bien, en tout cas, terminer en tête. Après, je pense que les McLaren, elles ne vont pas quand même refaire un raté comme elles ont fait il y a 15 jours. C'est-à-dire que c'est combien ? Il fait 7, Norris, à la fin ? 7 ou 8 ? Et puis Piastri, très, très beau Grand Prix de Piastri, qui... C'est bien vautré dans le mur au troisième virage. Donc, partant de là, je pense que McLaren ne va pas faire ça. Et donc, peut-être que Verstappen fera un, mais peut-être que les autres feront deux, trois ou quatre. Et le championnat va tranquillement se rapprocher d'eux encore. Quoi.
Sachant que si on regarde les deux dernières éditions, celui qui est parti en pole s'est imposé. Carlos Sainz en 2023 et 2024, c'est Lando Norris qui fait le doublé, pole position et victoire. Et Max Verstappen n'a jamais signé de pole position sur le circuit de Marina Bay.
Oh, le nul.
Oui. Mais il a gagné en 2022.
Il a gagné en 2022.
Gagné en 2022.
Non, c'est Sergio Pérez.
C'était bon. Oui. On sent que c'était Pérez.
J'ai sous les yeux. Crois pas que j'ai sorti ça de tête. Hein.
Ah, je me suis dit, il est bon celui-là, il connaît tout de tête et tout. Bon, écoutez.
On bosse un petit peu, tu sais.
Pense... Ouais, c'est bien, c'est beau.
Mais Max, j'ai aucune victoire à Singapour. Hein.
C'est vrai, il a jamais gagné à Singapour, Verstappen ? Mais c'est non. Un des rares circuits qui lui manque. Ok, d'accord. Tristan, toi, on imagine que tu es un passionné de Formule 1 de la première heure. Quand on va bosser en Formule 1, c'est que c'est un rêve qui se réalise, on imagine. Donc, tu suis toute la saison, non ? Enfin, je veux dire, tous les Grands Prix, tu es comme un dingue. Tu suis tout ce qui se passe à fond.
Oui, évidemment. Moi, de base, je suis vraiment tout ce qui est essai libre, qualificatif, course. Je regarde au maximum tout ce que je peux. Forcément, quand j'ai un autre emploi, les essais libres, c'est plus compliqué, mais qualif course, j'essaie quand même. Après, la Singapour, je pense qu'il y a certaines choses où je vais rejoindre Louis, où je pense que je suis assez d'accord avec lui, dans le sens où Verstappen, au niveau du pilotage, ça reste une machine de guerre, et là-dessus, je pense qu'aujourd'hui, on peut dire que c'est le meilleur pilote au niveau du pilotage. Après, un pilote, c'est pas fait que de pilotage. Et je pense que c'est là où sont ses points faibles à lui. Et que c'est pour ça que Red Bull est en difficulté en ce moment. Les derniers résultats, je pense qu'ils étaient relativement prévisibles par rapport au circuit. Et Singapour, je pense pas que McLaren s'inquiète tant que ça. Comme vous pouviez le citer. Parce que, justement, en fait, ils pouvaient s'attendre à perdre Monza et... c'était quoi le dernier ?
Baku,
merci.
Baku.
Dans le sens où sur la configuration, c'est
moteur,
relativement similaire. Voilà, on pourrait qualifier ça de circuit moteur. Et ce qui n'est pas le cas de Singapour. Donc, comme vous le disiez aussi.
C'est quoi les spécificités de Singapour, là, Tristan, du coup, quand on est un technicien comme toi, un ingénieur ?
Déjà, le tracé a changé en 2023. Moi, je préfère le tracé d'avant. Il y a quand même de bonnes lignes droites, mais ça reste des virages courts, basse vitesse. Il y a beaucoup de 90 degrés. C'est vraiment pas les qualités de la Red Bull actuellement. Je pense que McLaren peut clairement faire quelque chose là et juste prouver que c'est leur genre de circuit. Et en tout cas, pour moi, ils ont intérêt à le faire. Parce que s'ils perdent là sur ce circuit, là, ils vont vraiment pas commencer à s'inquiéter. Ouais.
Sachant que... On a vu, c'est quand tu as une des deux McLaren qui est un peu au tapis, ils sont tout de suite moins forts parce que leur force, c'est de faire cette stratégie à deux, ce que Max ne pouvait pas. Hein. Il est tout seul à subir, si tu en as une devant, une derrière, les stratégies décalées, tu défends, mais tu dois attaquer. Et c'est vrai qu'à chaque... là, ce qui s'est passé à Bakou, c'est que tu t'es retrouvé avec un Norris en milieu de peloton derrière le train Liam Lawson. Ils n'ont absolument rien pu faire. Quoi. Donc, si tu n'as pas tes deux voitures déjà... Tu sens que ça souffre un petit peu, mais ils ont quand même de grandes chances. Ils sont très performants en qualif. Quand même de grandes chances que ça marche à Singapour. Après, ça reste un circuit urbain et on sait que des fois, les pneus ont tendance à lécher aussi le rail à Singapour. Donc, écoute, on n'est peut-être pas à l'abri aussi de surprises en qualif. On est plutôt bien doté sur les dernières séances de qualif.
Hein. Tristan, tu y crois, toi, un exploit de Verstappen sur fin de saison, ou ça te paraît impensable parce que l'avance de McLaren au niveau voiture, le potentiel de la voiture et même le potentiel pilote, hein, bien sûr, avec Piastri et Norris, fait que l'écart est trop important pour que Verstappen revienne
Sur le championnat, du coup, je parle, je sais pas ce que tu parles. Moi, j'y crois pas trop. Après, je suis un peu biaisé avec McLaren parce que j'ai pas mal d'amis là-bas. Et du coup, je les soutiens
quand même.
C'est
bien de le préciser. C'est
la classe
préciser.
Quand même de dire ça.
Ouais.
Ouais, j'ai pas mal d'amis chez McLaren.
Donc, ouais, c'est... Mais ouais, je pense qu'ils font du bon boulot et ils méritent un peu là où ils sont aujourd'hui. Mais si Max le fait, là, oui, ça serait vraiment une grande dinguerie. Mais ouais, personnellement, je crois pas.
Moi, en fait, j'avais une question. Ce que tu nous disais, même si on va plus parler de toi, là, t'as un week-end de Grand Prix, donc tu regardes ce que tu peux. T'es quoi ? T'as le live timing, évidemment, j'imagine, sur un ordi, voire peut-être plusieurs écrans pour regarder. T'as des notes devant toi, tu fais des pauses pour savoir c'est quoi les paris aéro sur l'aileron arrière, sur les ailerons de devant. En fait, moi, je me dis, comment tu regardes un Grand Prix, enfin, un week-end
si
de Grand
Prix ? Si ça se trouve, t'es juste avec ta limonade et l'épée sur la table aussi. Hein.
Vraiment.
C'est possible. Hein.
Ouais, c'est plus la deuxième option là, en ce moment, parce que enfin, forcément, j'ai envie de dire... Tant qu'on n'est pas en Formule 1, de toute façon, c'est dur d'avoir tous les détails. Et c'est pas à la télé qu'on les verra. Donc j'ai envie de dire, là, à la télé, on profite du spectacle et on profite de la course. Il y a certaines choses, évidemment, qu'on peut voir. Je pense que de toute façon, ce qui est le plus intéressant à regarder en Formule 1, ça reste tout ce qui est stratégie. De se dire, OK, quand est-ce qu'il va s'arrêter ? Qu'est-ce qu'il va faire ça ? Je pense que c'est ce qui met un peu le plus d'animation et ce que nous, on va le plus chercher à réfléchir et à comprendre pourquoi ils font tel choix, etc. Après, regarder selon les incidents qui peuvent survenir sur la course, les attaques, on profite de la course.
Tiens, parlons de toi, Tristan. Comment on se retrouve là quand on est un Français comme toi, originaire de Limoges, à bosser dans une écurie de Formule 1 ? Parce que ça, c'est un rêve pour tout le monde. Tu vas te retrouver à bosser en plus pour Cadillac. C'est un énorme projet, une énorme marque américaine qui arrive avec des ambitions de dingue. Tu vas déménager, là, je le disais, dans quelques jours à Silverstone. Comment t'en es arrivé là et comment tu vis ce moment, l'excitation qu'il doit y avoir avant de démarrer cette aventure ?
Oui, bah là, c'est. J'ai envie de dire, c'est du bon stress. Donc, ouais, c'est clairement une excitation. J'ai clairement hâte d'y être. Mais comment je suis arrivé là ? Moi, c'est à 9 ans que j'ai dit à mes parents que je voulais faire un géant aérodynamique en Formule 1. Donc, ouais, comme justement je disais avec Arnaud, il y en a, ils sont fans de Messi, Ronaldo. Moi, j'étais en mode, c'est new way.
C'est bon, ça.
Donc, ouais, chacun ses passions. Et après, ben, mon parcours, c'est assez. Si je le fais rapidement, c'est. J'ai eu le bac à 16 ans. Et je voulais pas aller en prépa direct, donc je suis allé aux États-Unis faire une année d'échange avec un programme pour devenir bilingue. Et comme de toute façon, on sait tous que l'anglais, c'était primordial, au moins j'étais tranquille sur ce point. Et même en prépa pour l'école et tout, ça m'a aidé. Je fais ma prépa à Montaigne, après je suis allé à l'Estaca, où du coup, comme beaucoup de gens de toute façon dans le sport automobile recommanderaient, ça reste, je pense, un peu la référence à ce niveau-là. Suite à ça, j'ai fait quelques stages forcément déjà dans le sport auto, ce qui est de toute façon obligatoire si on veut avoir un jour une chance d'y rentrer. Si on commence pas par les stages, c'est quasiment impossible. Il y a juste une particularité, c'est que moi, il y en a un où j'ai commencé en sim racing.
Ah, c'est bon ça.
En fait, je sais pas si vous connaissez un peu le sim racing ou pas, mais en fait, du coup, en 2017, mon stage de 4e année à Estaca, je l'ai fait avec un ami de collège qui voulait monter sa boîte en sim racing. Et qui en fait a commencé à exploser et qui du coup s'appelle Race Clutch, son équipe. Et okay. En fait, ils sont probablement aujourd'hui les leaders en France.
Ouais.
Et bah, ils courent contre Redline, Verstappen et tout. Et puis il a géré du coup Alpine F1 eSport, pardon.
Et donc, quand tu dis à 9 ans, déjà, est-ce que tu es issu d'une famille où on aime le sport et le sport auto, où tu étais là à te battre, je vais regarder le Grand Prix sur TF1, mince, c'est Walker Texas Rangers ce jour-là. Voilà, comment est venu ça et quelle période aussi ? Est-ce que c'est Renault, les titres de Fernando Alonso ? Parce qu'on a forcément tous été un peu biberonnés. Moi, c'est les années Häkkinen, Coulthard, Schumacher, cette période-là. Ça nous marque forcément quand on est enfant, nos premières sensations de F1 à la télé.
Oui, bah, c'est exactement ça. Moi, je pense qu'en fait, que ce qui m'avait le plus marqué, en fait, c'était les petits passages avec Jean-Louis Moncey où il expliquait les nouvelles pièces à chaque fois. Et à chaque fois les petites vidéos qu'il y avait, moi en fait moi c'est ça qui m'a totalement séduit et où je me suis dit en fait ce qu'ils font avec l'air et tout c'est trop stylé, je veux faire ça un jour quoi.
Le top course.
top position. Tu sais que j'ai revu une vidéo, petit aparté, le dépassement d'Hakkinen sur Schumacher, je crois que c'est à Hockenheim, qui avait été coupé par la pub.
Ouais, non, mais c'est ce que
roi de front.
Ce que j'allais dire, la folie, c'est qu'à l'époque, sur TF1, tu te prenais des pubs en plein Grand Prix. Genre, tu revenais, il y avait un mec qui avait dépassé, que c'était hyper important.
Safety car. Bah après, il fallait bien financer, on va pas leur.
Mais c'est vrai que les Grands Prix sans pub, ça a été une révolution, hein, les gars. Hein, quand tu suivais la F1 et que t'étais gamin.
Mais là où Arnaud a raison, c'est que c'est le jour où ça passe sans pub, ça passe sur Canal. Et moi, je les regarde plus, justement, parce que j'ai pas Canal.
Ouais. Ah, tu regardes pas les courses, tu fais le podcast, tu regardes pas les courses.
Non, depuis j'ai Canal, je te parle
oui, à l'époque. Non, mais c'est vrai que ça a été un grand changement pour le coup. Donc, au début des années 2010, il doit y avoir un titre de Vettel et après ça bascule, je crois, chez
Canal. Tu vois, quand j'entends le parcours scolaire de Tristan, je me dis qu'on avait aucune chance, les gars. Moi, j'ai repiqué ma terminale. Voilà, c'était impossible.
Alors, on finit journaliste.
Ouais, ah, voilà, c'est ça. On termine.
On se fait appeler un génie dans le micro. Bam.
Voilà. Ouais, ouais. Tristan, ça va être quoi ton rôle chez Cadillac? Comment se sont passés ces contacts-là? J'imagine que déjà la structure là, vous êtes combien d'ingénieurs? Comment ça va se passer? Est-ce que tu en sais un petit peu plus sur la structuration de cette écurie? Et puis voilà, comment tu as eu cette opportunité là?
Ouais, moi j'ai eu. En fait, ils m'ont invité pour faire mes entretiens là en fin juin. Donc j'ai le bilan à fin juin. Là, en fait, on était plus en mode obtenir les papiers, visa, tout ça. Et donc là, ils m'attendent pour la semaine prochaine. Donc semaine prochaine, je te ferai un autre bilan si tu veux, mais jusque là, je l'ai à fin juin. Mais du coup, il y avait environ 300 personnes. Le but, c'est de s'étendre de toute façon, comme les autres écuries de Formule 1, de 1000 à 1500 personnes. Donc ça recrute énormément actuellement. Ils sont en train de racheter tous les bâtiments en fait qui sont autour de Silverstone. On est littéralement voisin d'Aston Martin et donc selon ton département, t'es dans un des bâtiments qui se trouve à côté. Le département aérodynamique où je serai exactement, j'ai le nom de mon manager, mais je sais pas exactement ce qu'il fait. Mais en gros, je serai affecté en mode aileron avant, aileron arrière ou underbody, donc plancher.
Fond plat,
ouais. Enfin, qui est plus plat, mais oui.
Fond pas trop plat.
Ouais, c'est ça.
Et c'est
tunnel Venturi, si on veut.
Tu as appris par cœur tous les documents sur la nouvelle réglementation parce que ça va être un gros changement. Ça veut dire c'est ta Bible, c'est tous les jours. Comment ça se passe parce qu'au-delà, on part d'une page blanche pour, entre guillemets, les nouvelles écuries l'année prochaine où on change tout. Mais Cadillac, on ne rachète pas une usine. Donc c'est encore plus blanc que blanc, quoi, la page.
Oui, ma Bible, je sais pas. Mais en tout cas, oui, le connaître par cœur, peut-être pas, parce que de toute façon, on peut s'y référer. Enfin, c'est comme tout. On n'est pas obligé de tout apprendre par cœur. Mais forcément, connaître les bases, savoir quels sont les points forts, les choses à éviter et ce genre de choses, ça me paraît assez logique qu'on les connaisse. Le règlement technique, oui, je l'ai lu. Après, même les 200 pages, je les ai pas forcément lues. Mais le chapitre 3 à partir de la page 13 pour l'aérodynamique, je le connais.
Moi, j'ai une petite idée. J'ai vu, je pense, un truc qui marche. C'est un espèce de double diffuseur, tu vois, à l'arrière.
Ouais.
Je pense qu'il y a un avenir, tu vois.
Oui, oui, oui.
Je pense que tu peux gagner.
Peut-être, oui. Peut-être, oui.
Non, tu n'y crois pas?
Ouais, je sais pas.
C'est dommage, il travaille en LFIA maintenant, je crois.
Oui.
Rose Brand. Moi, en fait, ce qui me fascine un peu dans ton histoire, Tristan, c'est que ça arrive super vite, 2026. Tu vas commencer à bosser, donc là tu prends tes quartiers là dans 2-3 jours, courant octobre quoi. Moi je trouve ça super short en fait pour développer une pièce sur une voiture avec l'importance de cette réglementation. Je trouve que le timing il est un peu short, non?
Alors si je veux sortir une pièce pour la voiture pour février-mars, je pense que ça peut se faire. Faut que j'en trouve une rapidement, mais c'est faisable. Là ils ont déjà un modèle de voiture qui existe. Le truc c'est que maintenant on va chercher à l'améliorer. Il faut les homologuer pour janvier-février, il me semble, pour participer aux essais hivernaux. Donc je pense que la première deadline ça sera ça. Et sachant qu'on utilise la soufflerie à Cologne, il me semble, de ce qu'on me disait, c'est qu'on y allait tous les 2-3 mois. Enfin, chaque ingénieur y allait tous les 2-3 mois. Donc en fait ils y vont un peu tout le temps, mais avec la rotation de tous les ingénieurs, Chaque ingénieur s'y retrouve à peu près tous les 2-3 mois. Donc, si je produis rapidement une pièce, dans 2-3 mois, je la fais en soufflerie et puis elle peut peut-être rouler pour le début de saison.
Vous êtes autant limité en temps de soufflerie ou pas que les autres quand vous débutez?
Ouais, la réglementation pour le coup au niveau de la CFD et de la soufflerie, elle a déjà commencé pour Cadillac. Ils sont considérés comme derniers, mais ils sont imposés déjà sur les temps de soufflerie et de CFD.
C'est bien, on pourra comparer l'Alpine et la Cadillac l'année prochaine, tu vois.
Ah ouais. Bah oui, tu m'étonnes. Est-ce que vous êtes, est-ce qu'on vous a fixé des objectifs, même sportifs?
Champion.
Est-ce que vous avez eu des briefs ou déjà, voilà, tu ressens qu'il y a une ambition ou l'idée de Cadillac, c'est vraiment de prendre le temps, de s'installer en Formule 1, voilà, de prendre ses marques, ou vous avez tout de suite un petit objectif quand même important qui vous est fixé?
Je fais pas partie du board, donc je connais pas les objectifs
bientôt.
Mais je pense que ça serait totalement fou qu'ils se fixent un objectif vraiment de victoire ou quoi. Je pense que déjà, s'ils arrivent à attraper un point, c'est pas mal. Je pense qu'il faut être réaliste que la Formule 1, ça reste un très haut niveau et que c'est pas en débarquant comme ça qu'on peut gagner. Et même quand tu citais le double diffuseur, c'était quand même le rachat d'une écurie et d'un des plus grands ingénieurs aussi de la Formule 1 qui a eu une super idée une année. Mais non, je pense que nous, à notre échelle d'ingénieur, on sait très bien qu'on ne va pas viser grand chose au début, qu'on va surtout chercher à comprendre comment va fonctionner la voiture qu'on va mettre sur piste. Parce que une des choses les plus importantes qu'on ne voit pas forcément justement dans la série, de ce que j'ai pu voir moi en travaillant dans la série aussi, c'est qu'on suit beaucoup à la soufflerie, mais en fait, il y a aussi une corrélation. En fait, il y a la corrélation CFD-soufflerie, mais il y a aussi la corrélation soufflerie réelle. Et c'est pour ça que, bah, par exemple, en 2020, McLaren s'est retrouvé avec X dixième d'avance d'un coup, parce qu'ils avaient fait un nouvel aileron avant, et qu'en fait, au lieu de gagner un dixième, ils en avaient gagné trois. Mais pour une fois, pour eux, c'était dans le bon sens, mais il y a quand même des choses à apprendre sur le réel, quoi.
Moi, j'avais été marqué, parce que, entre ce que tu peux faire en souffleur et tout, c'est, vous vous souvenez de l'époque, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, du marsouinage, là, purposing, où les voitures rebondissaient.
C'était même le début de la réglementation actuelle. C'était le gros souci de cette année-là.
Et McLaren, ça allait qu'il n'y avait pas de ponton. Je crois que c'était la Mercedes. C'était sur ce modèle-là. Enfin, tu voyais entre les écarts que tu pouvais avoir, ce que tu testais, tu dis oui, ça va marcher. Et puis là, tu la mets sur la piste en plus avec les circuits urbains qu'on a, on n'a pas forcément le meilleur asphalte de la Terre. J'avais été marqué par ça, cet écart que tu pouvais avoir encore aujourd'hui, quoi.
C'est ça. C'est aussi pour ça qu'on entend souvent parler des voitures qui sont plus ou moins sensibles à la piste ou quoi. Parce que ils roulent tous à des hauteurs de caisse assez différentes. Et forcément, quand on utilise l'effet de sol, je ne vous fais pas tous les dessins, mais en fait, on exploite certaines courbes pour extraire le plus d'appui possible sur la voiture. Et il faut rester dans certaines zones de cette courbe pour pas tout perdre d'un coup. Et le truc, c'est que si la piste rebondit et n'est pas... en soufflerie, oui, on a un sol plat, mais sur la réalité, ne sera jamais le cas. Et du coup, tout de suite, on voit les différences. Et oui, le marsouinage, en effet, c'était aussi une des conséquences aussi de la soufflerie où on est obligé de rouler des modèles aussi à 40%. Alors, on peut adapter en fait les vitesses et tout pour avoir le même Reynolds et du coup nos simulations correspondent, mais il y a des phénomènes qu'on peut pas simuler.
Rien à voir avec Ryan, hein.
Ouais, c'est ce que j'allais dire. Il me l'a volé. Précision pour tous les auditeurs et auditrices, si jamais vous voulez décortiquer le jargon de Tristan, vous envoyez un petit commentaire, on lui enverra des messages, hein. Voilà, on peut échanger, parce que c'est...
Ça sera notre Jean-Louis Moncet à nous.
Voilà, exactement, on fera des petites pastilles aussi. Ça serait marrant d'ailleurs, Tristan, de t'appeler au cours de la saison prochaine pour voir comment ça évolue. Moi, je voulais te poser des questions sur cette réglementation 2026. Arnaud a commencé à aborder le truc. Toi, en tant qu'ingénieur, alors même si tu t'es pas penché sur tous les volets de la réglementation, est-ce que ça annonce un chapitre excitant selon toi pour la Formule 1? C'est vrai qu'on est tous un peu dans le flou à chaque fois qu'il y a une nouvelle réglementation, on sait pas trop à quoi s'attendre, même les pilotes, on sait pas où en sont les écuries dans leur développement. Est-ce que tu crois que ça va être quelque chose, quand même une page de la Formule 1 qui se tourne et que ça s'annonce excitant?
Oui, je pense que c'est évident. Je pense que de toute façon, toute nouvelle réglementation comme ça, c'est de toute façon excitant. On sait qu'il va y avoir des nouvelles voitures, on sait qu'il va y avoir de nouvelles technologies qui vont être apportées, on sait qu'il va y avoir de nouveaux modèles et que les modèles entre les différentes voitures ne seront pas les mêmes et que du coup ils vont chercher à comprendre lequel sera le meilleur et lequel aura le plus de développement possible, etc. Oui, je pense que de toute façon c'est toujours très intéressant à regarder. Ces nouvelles voitures, je pense qu'elles sont oui très intéressantes aussi, parce que ça fait aussi longtemps que certaines personnes demandent des voitures plus courtes, plus légères, plus donc ils les ont enfin. C'est un premier pas déjà. C'est pas autant, on n'est pas revenu aux voitures des années 2000, mais on est déjà un peu plus couru, un peu plus léger. Il y a aussi le nouveau moteur qui va apporter pas mal de choses.
Va rouler. Alors, est-ce qu'on va atteindre les 400 km/h, Tristan ?
Non. Non, je pense pas. Non, parce que je crois pas qu'au final, les voitures soient censées être plus rapides. Je pense que de base, en tout cas, le jour 1, elles seront moins rapides, c'est sûr. Est-ce qu'elles seront plus rapides après ? Je n'en suis pas sûr. Peut-être avec du développement, encore une fois, ça sera possible, mais il me semble que de toute façon, le but, c'est aussi de ralentir un peu.
Ça a toute la gestion électrique qui change, aussi. Voilà, je crois que tu auras encore un peu moins d'apport thermique et un peu plus électrique. Et au niveau de la batterie, tout change. Et c'est vrai que nous, on essaye aussi de décortiquer à notre échelon. Bon, ce qui marque et ce qui est peut-être le plus marquant pour nous, modeste suiveur par rapport à toi Tristan, c'est la fin du DRS qui est remplacé par une espèce de système un peu différent. Enfin, c'est là on prend un pari, c'est soit vous voulez plus de traînée ou ça change un petit peu. C'est plus le DRS tel qu'on le connaît, on appuie sur le bouton, l'aileron il se lève. Ça change un petit peu. Vas-y, oui. Je te vois.
Non, mais je réagis en même temps au fur et à mesure que tu parles. Donc tu as cité deux choses. La première, ça va être par rapport au moteur. Je pense que les moteurs, du coup, tout ce qui est énergie, il me semble que là, il y a une certaine balance en fait qui a été effectuée. Et il me semble qu'en fait, c'est au niveau du déploiement, une certaine quantité d'énergie qui est autorisée, mais il faut qu'il y en ait une certaine quantité en thermique et une certaine quantité en électrique. Et du coup, la disparition du MGUH, donc pour ceux qui ne savent pas, ça reste le récupérateur d'énergie du coup, au niveau de la chaleur qui a été placé du coup, grâce à Mercedes entre les deux turbos. Donc cette fameuse innovation qui les a fait gagner pendant des années. Ce MGUH qui disparaît, forcément, il faut compenser ailleurs. Donc les MGUK qui sont plus gros, donc les énergies kinétiques, qui vont du coup récupérer l'énergie au frein.
Le KERS, comme on appelait il y a quelques années.
Oh, attends, là, je suis de retour en option physique-chimie, là, les gars. Je suis en train de tout noter, là.
Écoute, si t'étais passé déjà en hybride sur ta voiture perso, tu comprendrais le freinage régénératif.
Mais alors là, tu vois, mauvaise langue, monsieur Valadon, parce que figurez-vous que je vous donnerai pas la marque, mais je suis en hybride rechargeable.
Elles sont invendables,
bagnole. J'espère que t'as une marque française, je suis sûr que non. Moi, je roule français, monsieur.
Oui, alors là, par contre, je me prononce pas. Allez, on enchaîne.
Non, mais voilà, oui, sur.
Et du coup, la deuxième partie, juste où tu cites du coup le DRS. Alors, ce qui me semble, c'est que ça reste une partie activable par le pilote, où justement, ce sera quand même un bouton dans certaines zones qui seront autorisées, et que ce sera en fait à la fois l'aileron avant et l'arrière. Donc en fait, on a une autorisation de faire tourner les flaps, en fait, de l'aileron avant et arrière, pour faire comme un DRS, que ce soit à l'avant et à l'arrière. Donc, en effet, comme tu le disais, moins de traînée et ce genre de choses.
Mais c'est-à-dire cette autorisation, question bête, j'ai fait tomber le micro. Quand le pilote va activer, c'est avant et arrière en même temps ou il peut y avoir, je sais pas, ou alors il n'y a aucun intérêt à dire j'en active qu'un devant, je sais pas, tu vois, question bête. Hein. C'est une colle, on peut passer à la
prochaine. Non, mais.
Je sais pas s'il peut y avoir d'ailleurs un intérêt, mais. Parce que si tu cherches à activer et que tu es en ligne droite, généralement, tu ne vas pas activer dans un virage. Quoi.
Mmh. Ouais. Il peut, dans le sens où ça te permet de faire ça peut te permettre de répartir la masse. Si on imagine un cas simple comme le freinage, si tu te dis de toute façon, là au freinage, on veut a priori tout rabattre, mais est-ce que tu veux rabattre à un certain moment ou avoir plus de freinage sur l'arrière ou sur l'avant à un certain moment du freinage, tu pourrais te dire, en fait, je vais les désynchroniser les deux. L'aérodynamique a évidemment un point important là-dessus à jouer, mais j'avoue que je n'ai pas vu si c'était obligé d'être synchronisé ou pas. Je regarderai et je te dirai s'il y a une faille.
Ouais, une faille.
Une zone grise du
règlement. Ça ne fera pas du tout gagner, tu sais. Ouais.
Bon les gars, replongeons-nous un petit peu dans ce Grand Prix de Singapour. Du coup, comment on le voit ce week-end, Arnaud là, un peu avec les forces en présence. On parlait de McLaren, on parlait de Red Bull. On s'attend aussi à un réveil de la Scuderia, à moins que la Scuderia lâche complètement la rampe et bascule totalement sur 2026. D'ailleurs, j'ai vu une déclat de Fernando Alonso qui disait que sur les 7 dernières courses, Aston Martin allait terminer au moins 3 fois dernier lors des 7 dernières courses. Donc eux, tu sens qu'ils ont vraiment...
Et puis Fernando qui est en train de te dire, ouais, si ça change pas vraiment... Ouais. Peut-être faire autre
Tristan,
chose.
Tristan, hein. Là, tes voisins, Tristan, là, ils sont en train de passer sur 2026 très fort. Ils ont switché très vite. Mais comment on le voit ce Grand Prix de Singapour, Arnaud ?
Comme je te disais, moi, j'attends de voir ce que fait McLaren. Mercedes, ils sont là. C'est toujours un peu bizarre, Mercedes, cette année. C'est... Bah, on est là. C'est un peu la scène dans Astérix, Obélix, Mission Cléopâtre avec Chantal Lobby. On me voit, on me voit plus. On me voit, on me voit un petit peu. On me voit, on me voit plus. Tu sais que c'est un petit peu ça. C'est un moment, tu vas voir une paire de Russell qui va être là. Bon, Kimi Antonelli, c'est toujours compliqué un pilote rookie parce que tu n'as pas envie non plus de trop taper dessus et qu'il est encore tout jeune, à peine 18 ans. Donc, après, tu sens que c'est quand même tellement fait pour que McLaren rebondisse. Parce que circuit avec ses virages beaucoup à 90... J'ai du mal à voir autre chose que McLaren qui met les points sur les i. Après, conditions humides, c'est Singapour, tu sais jamais trop ce qui peut se passer, la dynamique, la folie de la F1. Voilà, après Ferrari, moi j'ai été triste, bah oui, parce que moi j'aimais bien Roscoe, c'est le chien de Lewis.
Ah, ben ouais, oui.
Qui a disparu, bah à voir Lewis, est-ce qu'il va pas y avoir un truc incroyable parce que bah, c'était aussi un personnage, son bulldog, ça faisait 10 ans qu'il était dans le paddock. Moi, ça m'a attristé, bah, j'aime bien les animaux, tu vois, mais ça, j'étais là mon début de semaine, j'ai dit, bah, le pauvre Roscoe, et c'est marrant aussi de voir comment la F1 lui a rendu hommage, parce que c'était un véritable personnage, ce chien. C'est pas pareil, tu te dis, oui, c'était pas un humain, mais voilà, on est aussi un peu romantique, tu le voyais un peu partout dans le paddock, et tu vois les hommages de tout le monde, tu te dis, bah, ça va nous manquer malheureusement. Donc est-ce que Lewis, dans ce contexte, parce que bah, évidemment, c'était lui le papa, le propriétaire, est-ce qu'il ne va pas y avoir aussi un truc incroyable de Lewis et de Ferrari qu'on aurait besoin, tu vois?
J'ai du mal à y croire quand même, non?
J'ai du mal à y croire aussi. Louis, on se raccroche à ce qu'on peut.
Si je crois à une chose sur le sujet, je le verrais limite plus ne pas venir, non, parce qu'il est en deuil, que venir et faire un truc incroyable.
Il va venir quand même.
Oui, non, je dis ça comme ça.
Oui.
Non, mais c'est vrai que Roscoe, c'était quand même un personnage du paddock, il faut le dire.
Il avait son pass VIP. Moi, j'en ai jamais eu.
Il avait son nom au générique de F1. Ouais.
Oui, exactement. Au générique du film. Ouais. C'est marqué Roscoe Hamilton.
Oui, c'est vrai.
T'as pas ton nom non plus, Louis, sur le générique.
Non, non, non. Je l'ai vu en 4DX, à part avoir eu mal au dos, ça m'a pas... c'était pas incroyable.
Au moins, t'étais dans un vrai baquet. T'as mal dans un baquet.
Les gars, Actu F1 aussi, Romain Grosjean est remonté dans une Formule 1, Louis.
Exact. Ouais, belles
images. Ouais, faut qu'on en parle. 5 ans après un énorme accident, il est remonté dans une AS sur le circuit du Mugello. En plus, il a eu la visite de plein de personnes, Fred Vasseur, voilà, une grosse ovation. Et il le disait, Louis, il a été ultra ému de remonter dans une Formule 1.
Bah oui, c'était quelque chose qui l'attendait, on le savait, un peu pour tourner la page définitivement. Il y avait eu tout un storytelling avec Toto Wolff, et puis ça ne s'était pas fait pour plein de raisons. Je ne sais plus trop pourquoi ça ne s'était jamais fait. Il y a eu le Covid d'ailleurs, je crois. Hein.
Covid,
ouais. Ouais, principalement. Donc c'est plutôt une bonne raison. Ce n'est pas Toto qui a fait son enfoiré, qui n'a pas tenu sa parole.
Il est monté dans une AS, pas une Mercedes.
Voilà, il est monté dans une AS, c'est pas une Mercedes. J'imagine qu'il est monté dans une AS il y a 2 ans ou 3 ans, à peu près un truc comme ça. Tu rajoutes à ça qu'il pleuvait, c'est toujours un peu dommage si t'avais envie de pousser un peu. Mais bon, de toute façon, c'était pas le thème de pousser, c'était remonté. C'est vrai que les images ont fait plaisir à voir. Moi, je pense que... Romain, pareil, ça aura été un personnage de la F1, dans le bon, dans le moins bon, dans parfois un peu le risible, malheureusement, sur quelques actions. On se rappelle Ericsson Hit Me, de trois petites. Voilà, mais bon, c'est une carrière, c'est quand même un gars à 10 podiums. Et puis ces images de Bahreïn 2019, elles resteront à jamais dans l'histoire. Séraphin avait fait une super vidéo qu'il avait mise sur le groupe là, Amsterdam, Rotterdam, je sais plus, il y avait le...
Oui, le musée, la combinaison. Ouais.
Le musée itinérant.
À retrouver sur la page Insta Formule 1.
Exactement, t'as vu un peu quand je suis transversal, 360, bon, tout ça. Et on pouvait y voir la cellule de survie en piteux état. Enfin, c'est impressionnant. Donc, c'est quand même c'était un moment, ouais, voilà, ça m'a plus ému que Roscoe, je suis désolé.
Il y a débat. Non, mais après, moi, Romain Grosjean, c'est vrai que tu as l'accident de Bahreïn, mais c'est presque à peu près tout ce que je retiens de ces années-là, c'est parce que moi, c'est Lotus, en fait, avec Raikkonen, c'est ces années-là.
Ouais. Ah ouais, il y a quand même, il y a eu, oui.
C'est parce que tu avais c'était Renault avant Lotus, quand il avait sa touffe incroyable.
Ah oui, oui.
C'est comment tout ça loge dans le casque.
Moi, c'est plus Lotus, parce que c'est les années où il éclot vraiment, où tu as de l'espoir, et sa signature chez Haas en 2016 qui était très audacieuse, on se dit ah, qu'est-ce qu'il fait et tout, et c'était une écurie très ambitieuse qui arrivait aussi avec Jean Haas et tout, et bon, Günther Steiner, évidemment, qu'on n'oublie pas, voilà, ça n'a peut-être pas aussi bien porté ses fruits que ça, tu vois, c'était pas... il m'a fait plus rêver chez Lotus que chez Haas, tu vois. Alors, il dit qu'il
n'avait pas la même voiture non plus.
Il dit pourquoi pas un retour. Je crois que c'est un peu compliqué quand même. Hein.
Ouais, là, je pense.
Longue shot. Tristan, toi, t'as un pilote un peu comme ça, favori. Et je sais pas, est-ce que t'es fan de quelqu'un ? Je sais pas si t'as trop le dire ou si tu veux trop le dire. Mais voilà, est-ce qu'il y a un mec qui te fait rêver actuellement dans le paddock ou un gars qui t'a fait vibrer avant ?
Ah, moi, bah, mon rêve, c'est Bottas et Perez. Hein.
Ah, il est corporate,
celui-là. J'allais la faire, il l'a faite avant. Bien joué.
Tu sais que Tristan, sans déconner, t'as le plus gros fan de Valtteri Bottas de la planète est à côté de toi, hein, Louis Germier.
Valtteri Bottas.
Hein.
Je peux te dire que Valtteri Bottas, je vais te soudoyer pour avoir un autographe un jour.
Tu achètes ses calendriers alors
Non, pas les calendriers.
Mais justement, quand t'as vu la line-up.
Je travaille tous les jours pour avoir les moyens de me payer son vélo, je vous le dis chaque semaine.
est-ce que quand t'as vu la line-up, tu t'es dit, c'est quand même de sacrés pilotes avec une sacrée expérience non pas que ça motive, mais il y a un petit truc en disant, on va en avoir des bons feedbacks, quoi.
Alors, je pense qu'il y a plusieurs choses. Perso, j'aurais préféré plus un Vettel, par exemple. Il y en a qu'on attendait pour faire des retours. Moi, voilà, si je suis fan, c'est Vettel. Je pense que, justement, on parlait de meilleurs pilotes, il y a Verstappen, mais au niveau mise au point et connaissance de la voiture, je pense que Vettel est au-dessus et du coup, il y aurait match entre les deux. Mais pour Bottas et Perez, forcément, on a un peu l'avis, c'est deux numéros 2, ils vont se demander lequel doit passer. Mais au niveau du feedback, je pense que de toute façon, les deux vont apporter certaines choses. À la fois de Red Bull et Mercedes, ce qui est de toute façon un gros avantage puisque c'est les deux dernières dynasties qui ont gagné, on va dire. Je sais qu'en plus c'est le cas parce que du coup, comme quand j'étais à Viry, je sais que Ricardo avait ramené déjà certaines choses chez Red Bull, donc j'espère qu'on pourra en extraire autant de Bottas et Perez en même temps. Et puis évidemment, le feedback une fois que la voiture sera sur la piste. Ça, je ne les connais pas personnellement, je ne connais pas leurs ingé stratégie ou quoi, donc je ne pourrais pas trop me prononcer là-dessus. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils ont de l'expérience. Donc,
il y aura forcément une redescente d'infos, c'est ça en fait, de toute façon.
La ruisselle. Si,
voilà, le ruissellement des infos.
Ça marche bien.
C'est trop directif, là. Sergio, il n'aime pas, ça lui rappelle la mature de Max.
Mais Tristan, toi, purement concrètement, avec le poste que tu as, tu vas être amené à croiser les pilotes combien de fois sur une saison ? Une fois, 10 fois ?
Ça sera quand ils passeront à l'usine, principalement. Ouais. Moi, j'ai un poste qui va sur piste.
Ouais, d'accord.
Donc, les places sur piste depuis, de toute façon, le Covid. Au Covid, c'était 40. Après, ils ont étendu à 80. Mais c'est majoritairement de la com et des gens qui ont besoin d'être sur place. Les ingénieurs, en général, ils restent à l'usine. Donc, je vais les croiser très peu. Et au final, je sais que chez Alpine, il y avait un certain débrief après chaque GP avec les pilotes, avec les ingénieurs de piste ou quoi. Mais du coup, là, chez Cadillac, j'ose espérer qu'il y aura la même chose. Parce que c'était quand même super intéressant d'avoir ce genre de retour à chaque fois. Mais ça, ouais, pour l'instant, je peux en prononcer.
Donc, c'est quoi concrètement le débrief ? C'est on les voit dans la fameuse salle, dans le motorhome, avec les casques, et ils vous parlent à vous qui êtes à l'usine, et tout le monde débrief ensemble.
L'Ops Room, c'est plus en mode pendant le GP ou quoi.
Oui.
Là, c'est vraiment juste le lundi ou le mardi.
Complètement.
Une heure de débrief.
Ouais, d'accord.
et voilà, les remontées des pilotes et tout, et des ingénieurs par rapport au GP, quoi.
Et toi, ton rêve ultime,
merci beaucoup.
Moi, j'allais dire, ton rêve ultime, c'est quoi? C'est de finir ingénieur de piste, directeur technique, si tu devais rêver très grand, voilà, te dire.
Comme le PSG.
Oui, exactement.
Champion d'Europe, du coup.
Mais oui. Voilà. Faut être champion du monde en F1 parce que champion d'Europe, je sais pas où ça va t'amener. Mais ouais, c'est quoi ton rêve ultime du coup?
Patron de la FIA?
Moi, ouais. FIA, je sais pas. Je pense que je préférerais être dans un team en tout cas. Dans un premier temps, de toute façon, je pense que c'est plus intéressant de viser un championnat du monde avec une team. Après, oui, forcément, évoluer dans les postes. Je pense que la piste, ça m'a toujours attiré aussi. J'en ai déjà fait sur des Porsche ou quoi. Donc. Je sais que c'est quelque chose qui me plaît et que j'aimerais me tourner vers ça un jour. Mais oui, forcément, directeur technique ou quoi, c'est un rêve pour beaucoup. Hein, mais je sais pas. C'est... Moi, pour l'instant, le technique me va très bien. Directeur technique, enfin, comme on l'entend là aujourd'hui, ça peut être aussi très journalistique et tout.
Directeur technique, c'est qui, par exemple, dans le paddock? Genre
Pierre Vacher?
Pierre Vacher, ouais.
Hein,
c'est ça? Ouais.
Attends, chez Ferrari, Vasseur et mince, hein, le nom... chez Mercedes,
Attends, on est bon, hein?
Ouais. Moi, je connais que les Français.
Ouais. Ouais, bah voilà. Bah, on a fait le tour.
Voilà, merci.
Ça sera coupé au montage.
Mais.
Ouais,
c'est quoi, imagine le... Dans... c'est quoi le poste de Vasseur?
Team principal.
Team principal.
T'imagines, dans 15 ans, on verra Tristan sur Netflix. On le verra interrogé par Julien Febvre avec la caméra dans la pit lane. Alors, ce pari des pneus super durs sortis par Pirelli.
Ah ouais, sûrement.
Et on sera souvenu.
Dans 15 ans, Julien Febvre, ce sera Jean-Louis Moncey, hein, les gars, dans notre jeunesse. Hein.
Encore jeune.
Oui, c'est vrai. Bah, enfin, dans 15 ans, il sera moins jeune quand même.
Non, moi, je te donne un objectif de carrière, c'est devenir ingénieur de course de Valtteri Bottas.
Plus sympa que Kimi Raikkonen au niveau finlandais. Hein. Ah, oui. Imagine, leave me alone.
Pas compliqué.
Voilà.
Tristan, merci beaucoup. Écoute, on va te suivre. Merci d'être passé en tout cas avec nous dans le paddock RMC. On attend bien évidemment, Tristan, la photo tu nous envoies sur le compte Insta RMC Formule 1 avec Valtteri Bottas. T'es obligé, avec le mulet.
Avec ton mulet.
Franchement, tu vas être obligé de nous faire une photo avec Valtteri. Ça, c'est obligatoire. Plein de bonnes choses. Nous, on se retrouve lundi, les gars, pour débriefer ce Grand Prix de Singapour. Si vous avez aimé un petit peu ce nouveau format, quand on fait venir un invité, qu'on parle technique, qu'on parle automobile, n'hésitez pas à nous le dire. On essaiera de faire venir un max d'invités du monde de la Formule 1 pour rentrer un petit peu en inside, dans les coulisses, avec des personnalités comme Tristan Villéger, qui va donc bosser chez Cadillac la saison prochaine.
Vive la France!
Bye bye! Vive la France! Et à lundi! Bye!
Ciao!
Le paddock RMC.